Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Eddie Claude Ninina Hasgwe.
Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs, bien merci pour votre fidélité à ce journal de la radio Nzamba Gatika Kawe. Voici d'abord les titres. Le président de la République dit ne pas reconnaître le procès rendu par la Cour de la communauté est-africaine qui a jugé le troisième mandat du défunt président Pierre Nkurunziza inconstitutionnel. Cela a été déclaré par Evariste Ndayishimiye ce vendredi lors de la conférence publique tenue en province de Kirundo. Le chef d'antenne de la Régie nationale des postes à Moutaro dans la province de Gitega a été tué par le balle ce vendredi. Le présumé assassin a été vite appréhendé dans la zone de Wissabi de la même commune. Il dénonce une arrestation arbitraire. Il s'agit de plus de 20 personnes arrêtées ce jeudi par le chef de zone et Mugomera dans la commune et province de Ngozi. Tous sont des agriculteurs enregistrés dans une coopérative agricole de la colline Nyanza dans la même commune de Ngozi. Voilà pour les titres. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Politique pour ouvrir ce journal, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, ne reconnaît pas les compétences de la Cour de la communauté est-africaine qui a déclaré dans son jugement l'inconstitutionnalité du troisième mandat de feu président Pierre Nkurunziza. Dans une conférence publique de ce vendredi animée en province de Kirundo, le président Evariste Ndayishimiye a fait savoir qu'il n'est pas du tout informé de ce jugement puisqu'il n'a pas été signifié. Suivez le président Evariste Ndayishimiye.
La constitution burundaise est-elle semblable à la constitution tanzanienne? Est-elle semblable à la constitution ougandaise? Ou à celle du Sud-Soudan? Ou à celle du Kenya? Dis-moi, quelle est cette cour qui est capable d'analyser la constitution burundaise? Cela montre qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette décision. Il n'y a aucun pays capable d'analyser un article de la constitution dans notre État. Je vous donne un exemple. Chez nous, dans le préambule de la constitution, nous mettons en avant Dieu. Est-ce que tout le monde met en avant Dieu? Est-ce qu'ils peuvent oser dire que puisque nous accordons la première place à Dieu, que c'est inconstitutionnel? Ils peuvent vraiment le dire. La Cour de la communauté est-africaine ne regarde que les lois qui régissent la communauté. Elle ne regarde pas les lois qui régissent les pays. Dans le code pénal en Tanzanie, il y a un article qui autorise la chicotte. Est-ce que cela existe au Burundi? Il faut que vous sachiez comment se joue la politique. Il y a des gens qui sont rodés dans les lobbying, déjà capables de manipuler d'autres. Est-ce que les magistrats burundais ne sont pas manipulés? Vous ne cessez pas de le dire, alors que ce sont eux d'ailleurs qui ne le peuvent pas pour arrêter les Burundais. Moi, en tout cas, je ne suis pas de cela.
Maître Dieudonné Bachira Ishize, un des avocats dépositeurs de la plainte au sein de la Cour de la communauté est-africaine, estime que les arguments du président de la République sont échappatoires. Le jugement de la Cour a eu lieu à Bujumbura en 2021 et la copie a été remise à son porte-parole. Suivez Maître Dieudonné Bachira Ishize.
La chambre d'appel de la Cour est-africaine a rendu son verdict en date du 25 novembre 2021. À Bujumbura, en présence des conseillers du chef de l'État, et par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a déjà reconnu avoir reçu cette décision lorsqu'il a commenté son contenu en disant que cet arrêt n'a plus d'objet, en ce sens que le président Nkurunziza serait mort, et que le mandat est déjà expiré. Donc, il est étonnant que le porte-parole puisse avoir la décision et que le chef de l'État ne puisse pas avoir été notifié de cette même décision. Par ailleurs, on peut rappeler qu'au mois d'octobre de cette année, les organisations de la société civile, des coalitions des partis politiques ont écrit donc des correspondances au chef de l'État en lui demandant de mettre en application cet arrêt qui est définitif et sans recours. Et en annexe de la correspondance, l'arrêt était annexé. Donc, l'alibi selon lequel le chef de l'État n'a pas encore été notifié de cette décision ne tient pas debout. Tout simplement, peut-être veut-il esquiver le fond, mais vaut mieux prendre le taureau par les cornes plutôt que de se réfugier dans cette échappatoire, dans cette forme d'échappatoire.
Pour Maître Dieudonné Bachira Ishizé, on s'étonne aussi d'entendre le chef de l'État dire que la Cour est incompétente, alors que les avocats du gouvernement ont répondu à toutes les audiences. Encore une fois, on écoute Maître Dieudonné Bachira Ishizé.
Par rapport maintenant à la compétence de la Cour, le chef de l'État n'est pas sans ignorer que le traité établissant la communauté est-africaine, en ses articles 5, 6 et 7, a mis sur pied des principes fondateurs auxquels tous les pays membres doivent adhérer, et notamment le respect de l'état de droit, le respect des règles juridiques internes et régionales. Et si, pendant plus de 6 ans, le gouvernement du Burundi a répondu aux audiences, a répondu aux écrits de la partie demanderesse, le Burundi était persuadé que le tribunal était compétent. Toute cette procédure-là a été suivie. La compétence de la Cour a été remise en cause par le gouvernement et le gouvernement a été débouté. Et le gouvernement a accepté de continuer les plaidoiries quant au fond. Maintenant que le sort du troisième mandat est scellé et qu'il n'y a plus possibilité d'interjeter appel contre cet arrêt, le gouvernement du Burundi doit assumer le principe de la continuité de l'État en mettant en application cet arrêt, en réparant les torts qui ont été causés par les fauteurs de troubles en 2015, ceux qui ont violé la loi et qui ont été à l'origine de tous ces maux qu'a connu le Burundi en 2015.
Poursuivons ce journal. L'administratrice de la commune Nyanza-Lac en province Makamba est toujours sous interrogatoire judiciaire. Selon les informations recueillies dans cette commune, elle est accusée par le conseil communal de s'approprier les terres domaniales et la gestion obscure des fonds de la commune. Ce mercredi, elle a comparu devant le parquet général près la cour d'appel de Makamba alors qu'elle aurait été auditionnée ce jeudi au commissariat général anticorruption. Certains membres du conseil communal sont menacés pour avoir dénoncé cette administratrice. Le point avec Pierre Gahoudre.
Marie-Gorée Tilamunda, administratrice de la commune Nyanza-Lac, a comparu devant le parquet général près la cour d'appel de Makamba ce mercredi 28 décembre 2022. Selon les informations recueillies dans cette commune, Marie-Gorée Tilamunda a été interrogée sur les questions de malversation et autres gestions obscures des biens de la commune Nyanza-Lac. L'interrogatoire porterait notamment sur la gestion obscure des fonds de la commune, les terres domaniales qu'elle se serait appropriées en zone Nyanza-Lac, dont un cimetière, et la gestion frauduleuse des fonds provenant de la location d'un champ de palmeraies de plus de 2 hectares en zone Kadilabageni. Une équipe de substituts du parquet général près la cour d'appel de Makamba avait effectué des enquêtes sur terrain pour s'enquérir de la situation. Selon les mêmes informations, Marie-Gorette Iramunda a également comparu ce jeudi devant la brigade anticorruption pour les mêmes motifs. 22 membres du conseil communal Nyanza-Lac avaient dressé un procès verbal marquant la... 22 membres du conseil communal Nyanza-Lac avaient dressé un procès verbal marquant la destitution de cette administratrice le 2 décembre courant, avec comme chef d'accusation une gestion frauduleuse des fonds de la commune et l'appropriation des terres appartenant à l'État en collaboration de certaines autorités. Plusieurs membres de ce conseil vivent actuellement en clandestinité de peur d'être interpellés. Samedi le 24 décembre, ces derniers ont boycotté la réunion de ce conseil. Une autre réunion du conseil communal est prévue ce samedi 31 décembre. Certains membres du conseil communal Nyanzalak contactés accusent le secrétaire provincial du CNDD-FDD, Gilbert Douayo, le bureau du conseil communal Nyanzalak et certaines autorités provinciales de partager plus de 5 millions par mois qui proviennent des fonds de la commune Nyanzalak, ce qui pousse ces derniers à vouloir assurer la couverture des membres du bureau de ce conseil. La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, a essayé de contacter par téléphone l'administratrice de la commune Nyanzalak pour qu'elle nous éclaire sur ses accusations, mais elle n'a pas décroché son téléphone.
Inzamba!
Plus de 20 personnes ont été arrêtées ce jeudi par le chef de zone Mugomela dans la commune et province Ngozi. Ils étaient en train de cultiver dans les marais de la colline Nyanza dans la même commune de Ngozi. Ils sont regroupés au sein d'une coopérative agricole. Ils demandent l'intervention du chef de l'État, Jean-Marie Ndabashinze, pour les détails.
Ces agriculteurs sont au nombre de 27, des femmes, des hommes et des jeunes. Ils ont été arrêtés par le chef de zone Mugomera de la commune Ngozi. En compagnie de deux agents de la police, ils les ont rencontrés sur le terrain de culture dans les marais de la colline Nyanza. Des sources en Ngozi disent que ces agriculteurs ont été tous acheminés vers le chef-lieu de la zone où ils ont été gardés à vie pour être libérés plus tard vers 18h de ce jeudi. L'autorité administrative n'a pas remis le 28 août selon nos sources concordantes. Ces agriculteurs sont membres de la coopérative pour la production des semences du Burundi, CPSB dirigée par Charles Mbonankira. Les membres disent être persécutés. Ils ont été chassés dans un terrain de 46 hectares, leur octroyé par le gouverneur via le ministère ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions. Le chef de zone et les agents de la police qui ont arrêté ces agriculteurs ce jeudi les ont rencontrés dans un terrain privé.
Nous sommes persécutés il y a un certain temps, et cela en dehors de la loi. On nous a chassés de notre domaine d'intervention. Le gouvernement avait octroyé ce terrain à notre coopérative. En nous expropriant, ils ont adressé une correspondance au patron de notre coopérative, Charles Mbonankira. Nous assistons à présent à une persécution sans nom.
Le terrain qui avait été donné à la coopérative CPSB a été donné aux coopératives collinaires dites Sangwe, dont les membres sont proches du parti au pouvoir. Des sources concordantes à Ngozi font état de la complicité dans l'affaire de certaines autorités de la province Ngozi, dont l'administrateur de Ngozi, des poids lourds du parti au pouvoir, dont l'ombudsman Aimé Laurentine Kanyana serait également derrière cette affaire. Les membres de la coopérative plaident auprès du président de la République pour être rétablis dans leurs droits.
Nous demandons au président de la République de prendre la question en main. Les agriculteurs sont en train d'être malmenés. Les membres de la coopérative Sangwe, ce sont eux qui occupent notre terrain aujourd'hui. La moitié de tout ce terrain qu'on avait loué, pas même dans le domaine de l'État.
À ce sujet, la radio Inzamba, Agathe Kakawe, a essayé de joindre par téléphone l'administrateur de Ngozi, mais sans succès.
Merci à Jean-Marie Ndabashinze, le responsable de la Régie nationale des postes à Mutaro pour parler sécurité. C'est dans la province de Gitega, a été tué par balle dans l'avant-midi de ce vendredi à son bureau. Le criminel a tenté de fuir après le forfait, mais il a été appréhendé dans la zone Guisavi de la même commune et a été directement conduit au commissariat provincial de Gitega pour enquête. Les détails avec mon fils Nyongeri.
La victime est le prénommé Emmanuel. Il est également le gérant de la poste Mutaro en province Gitega. Les informations que nous détenons des sources de la radio Nzamba à Gatekakawe à Mutaro indiquent que le présumé auteur du forfait était venu sur une motocyclette de plaque gouvernementale arrivée à Mutaro. Il s'est directement rendu dans un bistrot local non loin du bureau postal. Alors qu'il fait une commande d'une brochette qu'il a payée en avance mais qu'il n'a pas attendu pour la consommation. Quand il a vu le gérant de la poste Mutaro entrer dans son bureau, il s'est vite précipité vers lui. Après un laps de temps de combat en duel, le criminel a alors sorti son fusil de type pistolet et a tiré deux balles au niveau de la poitrine et la victime a rendu l'âme sur le champ, raconte les mêmes sources. Le présumé auteur, quant à lui, a pris le large et fouilla avec sa moto, laissant sur place la plaque gouvernementale et le fusil de type pistolet avec lequel il a tué le gérant de la poste Mutaho. Les forces de l'ordre et l'administration ont alerté et le présumé auteur a été arrêté au niveau de Rubengera dans la zone Wissabi de la même commune de Mutaho, dans une latrine où il s'était caché après avoir vu qu'il était encerclé, contenu les mêmes sources. Pris de colère, les habitants de Mutaho ont voulu lyncher le présumé auteur, ni têter l'intervention des forces de l'ordre qui l'ont directement conduit vers le commissariat provincial de police à Gitega pour enquête. Toutes ces informations sont confirmées par les responsables administratifs et policiers à Mutaho.
Merci à Bonfils Niyongé des derniers dossiers de ce journal. Si personne n'a trouvé la mort dans des accidents de circulation qui ont lieu ce jeudi, tandis que trois autres ont été grièvement blessés, ce drame s'est produit sur l'axe Kayanza-Bujumbura à la colline Wandaga de la commune Matongo en province Kayanza. Les six personnes décédées ont été enterrées ce vendredi avec l'aide des services administratifs afin de compatir avec les familles des victimes. Les précisions avec Evelyne Mukeshimana.
Selon les sources sur place, les six personnes décédées ont trouvé la mort dans deux accidents. L'un s'est produit dans une localité dénommée Kabouye, où un jeune élève qui roulait à vélo a été cogné par un véhicule. Il a rendu l'âme après qu'il avait déjà été évacué vers l'hôpital de Kayanza. L'autre accident a eu lieu dans un centre appelé Kiziwa, lorsqu'un véhicule de type Ben, qui transportait du gravier, a aussi cogné six hommes à la fois, après avoir dévié de son itinéraire. Deux parmi eux, dont le chauffeur, sont morts sur le coup, pendant que trois autres ont rendu l'âme à leur arrivée à l'hôpital. Trois survivants, mais grièvement blessés, sont en train d'être médicalement traités. De ce qui précède, d'aucuns pensent que cet accident aurait été dû à la distraction du chauffeur, qui venait de passer environ cinq jours en conduisant, sans répit, en servant dans les travaux de réparation d'un endroit de la même commune, où la RN1 était devenue impraticable. Quant au porte-parole du ministère ayant l'intérieur et la sécurité publique dans ses attributions, il dit plutôt que c'est l'excès de vitesse qui aurait été à l'origine de tous ces accidents. Signalons que les services administratifs locaux ont procédé ce vendredi à l'enterrement de toutes ces victimes dans le but de compatir avec les familles éprouvées.
Merci à toi Evelyne Mukeshimana et c'est ici la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Eddie Claude Nazoué à la présentation. Au revoir et à la prochaine. Bon week-end chez vous.